Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une émission de Priorité Santé intitulée Lévothyrox, scandale sanitaire ou crise d'information, avec un point d'interrogation tant l'affaire divise. En cause, la nouvelle formule de ce médicament, cette hormone de synthèse pour la thyroïde. En 2012, l'Agence nationale de sécurité du médicament a demandé au fabricant, le laboratoire allemand Merck, de changer de formule car le produit s'était révélé instable. En mars dernier, le nouveau Lévothyrox arrive dans les pharmacies françaises. La France, premier marché pour ses cachets, avec 3 millions de personnes traitées. La France est aussi le seul pays où la nouvelle formule est commercialisée. Un mois avant ce changement, le laboratoire a averti par lettre les professionnels de santé, prescripteurs, pharmaciens, pour qu'ils informent à leur tour les patients, certains patients. L'ANSM a aussi informé les médecins. Dans les mois qui suivent, c'est l'emballement des milliers de patients qui prêtent cette hormone thyroïdienne, rapporte les symptômes, fatigue, douleur, malaise, effet indésirable relayé sur des forums de patients sur Internet. L'affaire Lévothyrox est née. Alors d'autres faits, d'autres décisions vont suivre, une enquête préliminaire. Décision aussi de la ministre de la Santé de remettre l'ancienne formule sur le marché. Des questions que l'on va évoquer avec nos invités. Madame Nel Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente et porte-parole de l'Association française des malades de la thyroïde. Professeur Philippe Touraine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'endocrinologie et médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Également avec nous en studio, le docteur Dominique Dupagne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, également animateur du blog atout.org. Et puis Dominique Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ANSM, hein, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et Priorité Santé avait adressé une demande au laboratoire Merck qui n'a pas donné suite. En fin d'émission, nous retrouvons comme chaque lundi la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. C'est donc une situation plutôt rare, hein, même inédite, face à la mobilisation, à l'ampleur prise par la polémique autour de cette formule, nouvelle formule du Lévothyrox. L'ancienne formule de ce médicament a donc fait son retour dans les pharmacies. C'était lundi, il y a tout juste une semaine. Le lendemain, mardi 3 octobre, des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ont conduit une perquisition au siège du laboratoire Merck à Lyon. Résultat, saisie de boîtes, de cachets, donc de documents aussi, dans le cadre de l'enquête sur cette nouvelle formule du Lévothyrox. C'est donc à présent à la justice qui s'en est mêlée, après les patients et les politiques. Pour commencer cette émission, je vais vous donner la parole, professeur Philippe Touraine, endocrinologue. À ce titre, vous êtes un prescripteur de Lévothyrox à des patients qui souffrent de dérèglement thyroïdien. Première question, à qui est prescrit le Lévothyrox?
Le Lévothyrox est prescrit aux patients qui manque d'hormones thyroïdiennes. Alors ce manque d'hormones thyroïdiennes, il peut venir soit de maladies de la thyroïde, comme une insuffisance du fonctionnement, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, qui peut être liée par exemple à un contexte auto-immun particulier, c'est très fréquent chez la femme jeune, mais ça peut être aussi lié à des pathologies qui ont conduit à l'exérèse de la thyroïde, à enlever la thyroïde, donc de facto les gens n'ont plus de thyroïde, s'ils n'ont plus de thyroïde, il faut les substituer en hormones thyroïdiennes. Et puis il y a toujours ce sous groupe très particulier de patients qui ont eu un cancer de la thyroïde et pour lequel on a aussi des objectifs en traitant ces patients, donc par du Lévothyrox, d'obtenir un contrôle absolument stable et parfait de la maladie. Donc on a plusieurs sous-groupes de patients et historiquement il y avait en France beaucoup de patients qui recevaient du Lévothyrox parce qu'ils avaient simplement des nodules et donc les médecins autrefois avaient tendance à donner beaucoup de Lévothyrox en espérant freiner la croissance de ces nodules, freiner donc cette croissance croissance pour mettre au repos la thyroïde. Et beaucoup d'études ont quand même montré que c'était sans doute un peu excessif comme prescription, dans la mesure où il n'y avait pas, en tout cas, de manque d'hormones thyroïdiennes chez ces patients.
Et professeur Philippe Touraine, quand on commence à en prescrire, c'est à vie ?
Alors, c'est malheureusement dans ce contexte que s'inscrivent beaucoup de patients et beaucoup de médecins. Or, ce qui me frappe, et peut-être d'ailleurs encore plus favorisé par les événements qu'on connaît ces dernières semaines, on peut être amené tout à fait à discuter, à repenser le pourquoi du comment. Quand on demande à un patient, vous êtes sous lévothyroïde depuis 15 ans, est-ce que vous vous souvenez le pourquoi, le taux initial de votre TSH, la fameuse hormone qui contrôle le fonctionnement de la thyroïde? Le plus souvent, les gens ont égaré leurs résultats hormonaux, ou parfois ils vous apportent un résultat qui était, on va dire, subnormal, très modérément augmenté. Et donc, il y a souvent beaucoup de patients à qui je peux proposer un sevrage. J'entends, ce ne sont pas les patients qui n'ont plus de thyroïde, puisque ces patients auront besoin toute leur vie. Mais ce sont des patients à qui on peut proposer un sevrage progressif et qui le supportent souvent très bien. Donc, il faut dire aux gens que ce n'est pas parce que vous prenez du lévothyrox à un moment T donné que c'est nécessairement à vie dans tous les cas.
Dominique Martin, pourquoi l'Agence de sécurité du médicament que vous dirigez a commandé, c'était je crois il y a 5 ans, de changer la formule du lévothyrox?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un mouvement mondial qui consiste à améliorer les spécialités qui contiennent de la lévothyroxine. L'écart, c'est-à-dire le manque de précision de ce produit était une caractéristique des anciennes spécialités. Donc l'idée est de rendre plus précis le médicament avec des écarts moins importants de façon à ce qu'il y ait moins d'aléas. Et le deuxième point qui était important était que le produit se dégradait dans le temps, il était instable. Et donc la modification a consisté à modifier l'environnement, non pas le principe actif qui reste exactement le même, mais modifier les excipients qui sont l'environnement dans lequel baigne ce principe actif de façon à rendre le produit plus stable. Il n'était pas stable, ça veut dire qu'en fonction de la boîte que vous preniez, en fonction de l'âge de cette boîte, le produit était plus ou moins concentré en lévothyroxine. Et donc tout ceci consiste à avoir un produit donc de meilleure qualité, à la fois en précision et en stabilité dans le temps.
Alors si on revient sur ce calendrier des faits, le nouveau produit est arrivé dans les pharmacies au mois de mars. Nel Gaudry, à partir de quel moment vous sont signalées les premières réactions, les premiers effets indésirables?
En mai, parce que la nouvelle formule est arrivée en mars, donc le temps que les personnes réagissent et comprennent pas vraiment leurs effets indésirables, on nous a contactés vers mai.
Alors je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Association française des malades de la thyroïde. Quels sont justement ces effets indésirables qui sont à ce moment-là recensés?
Bien, j'ai eu une personne et ce matin j'ai fait une recherche à laquelle je pourrais même apporter la réponse. Les personnes sont avec des douleurs, des problèmes musculaires, des pertes de mémoire, des troubles de la vision, des pertes de cheveux, et ça devient absolument intolérable pour eux. J'ai justement là, alors je ne veux pas m'attaquer sur les excipients parce que je ne suis pas chimiste et pas médecin non plus, mais je viens de voir une notice ce matin concernant ce fameux mannitol qu'on a mis dans les excipients. Et ce mannitol marque bien les risques de nausées, vomissements, céphalées, tachycardie, hypotension, troubles de la vision, déshydratation et confusion mentale.
Donc, docteur, est-ce que juste une précision, docteur Dominique Dupagne, le mannitol qui est venu, si je crois bien, remplacer le lactose qui avait été retiré face au risque d'intolérance au lactose?
Absolument, c'est un excipient parmi d'autres qui a été intégré dans le médicament.
Et on reconnaissait justement ces effets secondaires dus à cet excipient particulier?
Le mannitol est présent en doses très faibles dans le comprimé et n'est pas censé avoir les effets décrits qui sont ceux de doses beaucoup plus importantes. Maintenant, la question en effet, c'est de savoir si chez certaines personnes, il peut y avoir un effet du mannitol à des doses aussi faibles. C'est un débat complexe parce qu'on n'a aucun élément pour le penser. En même temps, on ne peut jamais être sûr de rien en médecine, mais ça semble assez peu probable.
Ces personnes, Nel Gaudry, justement, qui se sont plaints de ces symptômes, quel a été leur réflexe immédiat d'aller voir leur médecin prescripteur, leur dire il y a quelque chose qui est en train de se passer?
Absolument.
En moi?
Absolument. Et la plupart des médecins, je suis vraiment désolée, les ont reçus d'une manière méprisante, leur faisant croire que c'était dans la tête que ça se passait. Or que si on ne voit pas le côté humain, il y a le côté animaux aussi, où là il y a des pertes de poils, les animaux ont aussi les effets secondaires. Donc, je vois pas le nocebo dans ces nouvelles formules.
On reparlera de ce fameux terme de nocebo qui est un petit peu perçu comme l'inverse du placebo. Prendre un produit de substitution, professeur Touraine, vous pouvez nous justement tout de suite, hein, pour que les auditeurs comprennent bien ce dont on parle, nous définir placebo, nocebo.
Mais placebo, c'est lorsqu'on fait des études où on compare un produit actif et un produit qui n'est pas actif, il y a juste l'excipient. Donc, ce que vous avalez n'a aucune activité en soi biologique. Et donc, avoir des effets positifs en disant « je me sens mieux, je suis plus en forme », alors qu'on est sous placebo, c'est justement ce qu'on appelle l'effet qui est basé sur autre chose que la molécule elle-même.
Ce qui est souvent testé pour les tests de médicaments, pour voir
absolument.
Si le médicament a un effet réel.
Et un effet supérieur à l'effet dit placebo. Dans la plupart des études, l'effet placebo, il existe, mais nous sommes tous des êtres humains, et ça c'est un élément tout à fait important, c'est-à-dire que on peut réagir favorablement si on vous dit prenez un comprimé, on ne sait pas ce que c'est, on peut avoir des bénéfices inattendus. L'effet nocebo, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire au fond, toutes les plaintes qui n'étaient pas vraiment attendues sont après de plus en plus écrites par des patients. Et c'est... Alors, je me mets pas, moi, du tout en opposition par rapport à ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que c'est assez intéressant en même temps de noter qu'à partir de la rentrée, après l'été, à la fin de l'été, beaucoup de patients sont venus me voir en disant « j'avais des symptômes, je savais pas très bien ce que c'était, maux de tête, vertige, etc., mais pas forcément en amplifiant considérablement les choses, en vivant avec ces symptômes, et sont venus en me disant « j'ai entendu que ». Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu un phénomène boule de neige sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'attarde un tout petit peu dans la mesure où c'est très multifactoriel. Je rejoins tout à fait madame quand elle dit que probablement au début, beaucoup de patients au printemps dernier sont allés voir leur médecin. Je ne sais pas s'ils ont été méprisants pour reprendre l'expression qui a été utilisée.
Mais vous, personnellement, quand les premiers patients, les premières patientes viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur dites?
Mais je vais vous dire, alors je pense que c'est
vous
la première...
Vous les aviez informés déjà personnellement du changement de formule?
Je vais être parfaitement honnête, j'ai envie de vous dire non, schématiquement non, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a reçu un courrier officiel de l'Agence du médicament, nous expliquant qu'il allait avoir une nouvelle formulation. Le laboratoire a même mandaté ce qu'on appelle des délégués médicaux pour nous expliquer que la boîte rouge devenait la verte, la bleue devenait la jaune, j'invente les couleurs, mais en gros c'est ça. Et surtout, pas d'inquiétude, ça ne change rien ni pour vous ni pour le malade. Une forme de banalisation. Je dirais que l'erreur probablement, c'est qu'il y a eu tout un contexte de banalisation autour de ce changement de boîte, pas d'information, pas de préparation. Et donc finalement, quand les premiers patients sont arrivés, possiblement beaucoup de mes confrères étaient un peu désarçonnés, sur autant que les symptômes qui ont été bien rappelés ne sont pas des symptômes de surdosage ou de sous-dosage en hormones thyroïdiennes. C'est pas vraiment des symptômes très spécifiques. Et donc, forcément, les gens se sont retrouvés totalement perdus. Et je crois que ce à quoi on a assisté, c'est que depuis 6 mois maintenant, je crois que beaucoup de ces patients se plaignent d'un manque, on va dire, d'écoute, d'empathie à leur égard, alors qu'il y a des plaintes. Donc il faut les écouter, comme l'a très bien dit Dominique Dupagne. Après, il faut essayer de réfléchir pour se dire à quoi est-ce que c'est lié, dans la mesure où sur le plan pharmacologique, on n'a pas énormément d'arguments pour dire qu'on a un produit qui est défaillant avec le nouveau Levothyrox.
Docteur Dominique Dupagne, justement, dans cette crise du Levothyrox, il y a un élément clé, c'est le nombre de personnes qui reçoivent ce médicament. 3 millions de personnes, forcément, quand on a 3 millions de personnes qui reçoivent une nouvelle formule, il va y avoir des effets sur, au niveau simplement statistique.
Il y a deux éléments. Il y a d'abord, en effet, les 3 millions de personnes, et d'autre part, l'extrême sensibilité des patients à un changement d'effet du produit. Quand vous prenez un produit pour la tension, vous ne vous rendez pas compte qu'il marche 10% ou 20% moins fort. Quand vous prenez les hormones thyroïdiennes, une petite modification de leur effet va avoir des conséquences fortes. Et on le sait depuis longtemps, ça a été observé dans d'autres pays, ça a été observé aux États-Unis notamment quand sont arrivés les génériques, au point que le collège des endocrinologues américains a recommandé aux patients de ne pas changer de médicament facilement de l'un à l'autre, enfin de ne pas changer souvent, mais surtout a recommandé qu'on informe les patients directement lorsqu'il y avait une modification dans un médicament. Et ça, c'est une leçon qui n'a pas été prise en compte. Et donc, sur 3 millions de patients, quand on vous dit qu'on a une étude dite de bioéquivalence, c'est-à-dire une étude où on va comparer l'ancien et le nouveau produit pour voir si la lévothyroxine qu'il contiennent va avoir le même effet sur l'organisme, ou plutôt pas avoir le même effet, diffusé de la même façon dans le sang, ce qui est un peu plus restrictif. Quand on vous dit en moyenne, c'est pareil. C'est-à-dire que la grande majorité des gens, en moyenne, ça donne la même chose avec l'un ou l'autre. Ça néglige le fait que la moyenne n'est pas tout le monde. Et qu'il y a des gens aux extrêmes qui vont avoir un effet plus important ou moins important, et même si ça ne fait que 1% des gens, sur 3 millions, ça fait 30 000 personnes.
Et aujourd'hui, on est à 10 000 plaintes.
Alors,
c'est-à-dire
on est à 10 000 plaintes.
L'affaire n'est pas encore peut-être arrivée à son terme.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, chez les médecins, chez les pharmaciens, la réponse est « j'ai pas vu grand-chose ». Mais c'est normal, parce que si vous avez une personne sur 100 qui a un problème, à l'échelon d'une clientèle, vous n'allez rien voir. En revanche, à l'échelon national, ça fait beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui vont s'en plaindre. Et donc là, ça pose vraiment un problème sur comment fait-on pour s'assurer que on ne change pas d'effet d'un médicament en passant d'une nouvelle formule à une ancienne, à un générique à partir d'un médicament original, et comment doit-on informer les patients? Est-ce qu'on reste un peu paternaliste en disant « ne les inquiétons pas, donc ne disons rien » ou au contraire, est-ce qu'on leur doit une information pleine et entière, y compris sur la boîte?
Dominique Martin, problème de communication, on va en reparler plus tard, mais autre problème qui se pose, c'est peut-être aussi le monopole, même si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit que dans les prochaines semaines, un terme allait être mis à ce monopole. Il y a eu un temps en générique, il a été arrêté, il y a eu les gouttes, c'est pour certains malades, précisément peut-être les enfants, peut-être des personnes qui ont des gros problèmes de santé. Le problème, c'est que Merck, aujourd'hui, entre guillemets, contrôle la thyroïde de 3 millions de personnes en France.
Alors, vous avez tout à fait raison aux facteurs qui ont été énoncés par le docteur Dupagne, auquel j'allais dire tout à fait, on y reviendra. Il y a ce facteur particulier qui est celui du monopole. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Merck le monopole. C'est le monopole, il est de fait.
Mais de fait.
Voilà, ça serait n'importe quel autre laboratoire, ce serait la même chose.
Mais c'est de ça dont on parle aujourd'hui.
Mais on est de fait dans une situation de monopole, et le fait qu'il y ait cette situation de monopole a fait que les gens se sont sentis en fait coincés en quelque sorte, puisque ils n'avaient d'autre choix que de prendre la nouvelle formule. Donc cette situation de monopole, additionnée au nombre de patients et à la particularité de ce médicament qui est extrêmement sensible, sont certainement trois facteurs qui ont joué dans la situation actuelle de manière incontestable.
Il y a déjà eu beaucoup de communication. Il n'empêche, le grand écart entre la perception, l'analyse des médecins et celle des patients reste, on a envie de dire, aux antipodes. Hein. Il y a cette pétition qui a été lancée contre le nouveau Levothyrox, dangereux pour les patients. Nel Gaudry, vous maintenez ce terme de dangereux aujourd'hui?
Oh ben moi, j'irai même plus loin, parce que je suis une malade. Ça se voit peut-être pas, mais...
Ça ne se voit pas forcément.
Voilà, on m'a quand même enlevé la thyroïde en 2008, classée PT4. Donc 64 ganglions enlevés, dont 21 métastasés. Avec des nodules pulmonaires, je me fais soigner à la salpêtrière d'ailleurs, et je prends, jusqu'à présent, j'ai pris l'ancienne formule. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est dire que l'ancienne formule, au fur et à mesure de la boîte, il y a moins d'efficacité. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ça fait 10 ans que je prenais l'ancien Levothyrox. Il faut, pour mon cas, que je sois à la TSH 0. Il n'y a pas eu de variation dans ma TSH depuis 10 ans avec l'ancien Levothyrox. Donc, je ne vois pas pourquoi que la France a demandé à Merck de changer cette formule pour des raisons de lactose. Vous avez très peu de personnes qui ont des problèmes avec le lactose par rapport au scandale qu'il y a aujourd'hui avec la nouvelle formule.
Docteur Dominique Dupagne, vous voulez réagir?
Oui, brièvement. Il faut savoir que les tests de dégradation du produit se font dans des conditions extrêmes qui ne sont pas forcément celles qu'il y a chez vous. Par exemple, on sait que la dégradation d'un médicament est exponentielle avec la température. Et donc, ce qu'on constate, c'est des baisses de principes actifs à partir de 25 degrés, si vous voulez. Si vous le conservez à 19 degrés, vous n'allez pas observer la même chose.
Je le mets au frigidaire.
Ah bah à ce moment-là, vous n'avez quasiment pas de dégradation et votre produit ne bougera pas pendant 10 ans.
Dominique Martin, juste pour avoir une idée, c'est systématique de demander tous les X temps, 5 ans, 10 ans, de changer les formules ou c'est quelque chose d'exceptionnel?
Non, ça n'est pas exceptionnel. C'est la vie des médicaments que d'évoluer et d'évoluer en qualité. Après, il y a rarement d'événements aussi importants que celui-ci, concernant, on l'a dit, 3 millions de patients et un médicament aussi sensible, mais plusieurs fois par année, on fait des modifications des produits pour améliorer la qualité. La raison n'était pas tant le problème du lactose, il y a des intolérances au lactose, elles sont connues, c'était pas tant ça, hein. C'était vraiment l'idée de, voilà, d'être plus précis et plus stable. Et c'est un mouvement qui se déroule dans le monde entier avec d'autres spécialités et d'autres excipients, hein, mais
on va en reparler.
C'est global.
Vous restez avec nous, on se retrouve juste après les informations, toujours pour parler du Levothyrox, comment ce qui devait être un simple changement de formule d'un médicament est devenu une affaire qui a fait reculer le ministère de la Santé. On y revient dans une trentaine de secondes.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée au Lévothyrox. 3 millions de patients directement concernés en France. Il s'agit de la boîte de médicaments la plus vendue sur ordonnance. Et au-delà, une polémique qui pose la question de l'information des patients, de la prise en compte du ressenti du malade, mais aussi de ses proches. Toujours avec nous en studio, professeur Philippe Touraine, chef du service endocrinologie et médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le docteur Dominique Dupagne, médecin général. Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Nel Gaudry, coprésidente et porte-parole de l'Association française des malades de la thyroïde. Nel Gaudry, est-ce que les malades se sont sentis négligés ?
Complètement. À la hauteur des mails que j'ai reçus à partir du mois de juin, j'en recevais 50 par jour. Ils étaient désespérés. Complètement, ne savant pas où aller. Déjà, en plus, les vacances arrivaient, il n'y avait pas d'endocrinologue, pas de médecin. On ne savait pas trop ce qui se passait. La FMT les a aidés comme elle a pu. Et moi, je me suis trouvée dans l'obligation de joindre Michel Rivasi pour qui m'a envoyé...
Qui est députée européenne, Europe Écologie Les Verts.
Et qui m'a envoyé Sébastien Ball. Et là, on a fait une conférence de presse parce que ça devenait intolérable pour les malades. Nous, l'association, on n'est pas médecins. On est là pour les aider, là pour essayer de joindre des personnes qui ne peuvent pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en Belgique, ils ont de l'altyroxine grenzienne qui est avec du lactose et... La FMT demande, puisqu'il y a 700 000 boîtes qui peuvent être déversées sur la France, que ça soit fait immédiatement. La FMT prendra un mouvement national auprès de l'Élysée si dans les jours ou la semaine qui vient, ce n'est pas fait. On ne veut plus de cette ancienne formule. Ça sert à rien de dire faut patienter, on va s'habituer, on ne s'habitue pas au malaise. Il y a des personnes qui ont été licenciées parce que avec des troubles de la mémoire, des troubles de la vision, de la fatigue, les patrons, ils ont licencié ces gens-là.
Alors il y a une procédure judiciaire. Hein, là, toutes les plaintes sont recensées, notamment auprès du pôle santé du parquet de Marseille. Mais pour bien comprendre, ancienne formule, nouvelle formule, il y a eu le retour dans les pharmacies en début de semaine dernière. Sur décision de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle l'avait annoncé le 15 septembre, si vous le voulez bien, on va l'entendre tout de suite. Agnès Buzyn, donc, qui annonçait cette décision de relancer la vente, la mise en vente du Lévothyrox sous le nom Euthyrox, c'est bien cela. Tout à l'heure, madame parlait de la Belgique, de cette formule différente. Pourquoi la France a changé? Pourquoi la Belgique elle aussi a changé, mais en maintenant cet excipient, Dominique Martin.
Alors, c'est une autre spécialité. Donc, il y a eu un changement qui a été effectivement opéré en Belgique. La situation a été différente. Les études de bioéquivalence qui ont été évoquées par le docteur Dupagne montraient qu'il y avait une très grande différence de l'ordre de 30% entre les deux formules. Et ce qui expliquait qu'on savait que chaque patient allait avoir besoin d'adapter son traitement, d'où l'information systématique aux patients. Mais cela étant dit, moi, je reconnais tout à fait qu'il y a eu un défaut d'information dont on est collectivement responsable. Et en tant que directeur de l'agence, moi, je prends tout à fait la part de responsabilité sur la difficulté d'informer les patients.
Quand vous dites collectivement, vous parlez de qui ? Du laboratoire également ? De l'ANSM ?
Et des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on a informé les professionnels de santé. On n'a pas juste envoyé un courrier. On a regardé, on a envoyé 400 000 contacts aux professionnels de santé. Chaque catégorie, les endocrinologues, les médecins et les pharmaciens, ont été contactés au moins 3 fois entre le mois de février. Le mois d'avril. Mais clairement, ça n'a pas suffi. Je retiens 2 choses. 1, on n'a probablement pas été assez précis sur le fait qu'il risquait d'y avoir des déséquilibres thyroïdiens. Je pense qu'on n'a pas été assez précis sur ce point-là. Ça a été évoqué, mais pas suffisamment précisément. Et le deuxième point, c'est que probablement l'information qui passe par les médecins, elle était, vous voyez, très importante, n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut qu'on change de paradigme, n'est pas suffisante pour toucher les patients. Et on doit travailler avec les patients. C'est pour ça que la ministre a d'ailleurs annoncé une mission de communication sur les médicaments. On doit travailler directement avec les patients. On doit changer de modèle, parce que manifestement, avec les modèles classiques, eh bien, on ne touche pas les patients. Madame a raison. On n'a pas touché les patients. On n'a pas informé informer suffisamment les patients de ce risque de déséquilibre.
Professeur Philippe Touraine, endocrinologue, vous voulez réagir ?
Oui, enfin, moi je suis totalement d'accord et on voit bien ici autour de cette table comment ce sont différentes positions qu'il faut qu'elles s'articulent un petit peu mieux, puisque la parole du malade, on l'a en face de nous au jour d'aujourd'hui, on voit bien à quel point elle est chargée de colère en quelque sorte. Bien entendu, de colère, de crainte, de méfiance. Et ça, c'est un élément qui doit entrer en compte, c'est-à-dire qu'on est en ce moment dans une période...
Même de défiance.
De défiance vis-à-vis des autorités de tutelle. On va pas revenir sur l'affaire du Mediator, ça fait quelques années, mais regardez le débat en ce moment sur les vaccinations qui mobilisent à la fois le corps médical, mais aussi des députés, des médecins, etc. Ça montre bien qu'il y a une défiance, une méfiance. Quand on voit que la semaine dernière, on nous explique que les femmes ne veulent plus utiliser les contraceptions hormonales classiques ou qu'il y a une chute libre, ça montre qu'il y a une méfiance considérable vis-à-vis du médicament. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que peut-être que Merck fabriquait son produits dans d'autres pays que des pays européens, je ne le sais pas en l'occurrence, mais ça montre bien à quel point on a atteint, non peut-être pas le fond, n'exagérons rien, mais une situation où tous nous devons réfléchir ensemble. Et je suis content de voir que du côté des tutelles, enfin Dominique Martin le signale très bien, effectivement faire des courriers ne suffit pas quelque part, et nous recevoir une information ne suffit pas dans la façon dont on la communique auprès du patient, et ça nous interroge nécessairement.
Cette crise de l'information aussi, elle s'explique par le fait qu'il y a eu quand même un intervenant nouveau dans ces 15 dernières années dans le domaine de la santé, c'est bien sûr les réseaux sociaux, c'est bien sûr Absolument. Internet. Dominique Martin, vous vouliez réagir par rapport à certaines théories qui circulent, justement aussi par le biais d'Internet, des informations, on ne le sait pas, peut-être vraies, peut-être fausses, sur particulièrement des intérêts de Merck, des lieux de fabrication. Il y a beaucoup de suspicions autour de tout cela.
Alors, sur cette question-là, effectivement, il est important d'être précis. Autant, on doit reconnaître que le passage de l'ancienne formule à la nouvelle formule a pu entraîner des déséquilibres chez certains patients qui n'ont pas été pris en compte pour des raisons qu'on vient d'évoquer juste avant, de défaut d'information, en tout cas d'information qui n'est pas arrivée jusqu'au patient et qui n'a pas permis d'équilibrer le traitement. Pour ce qui est de la nouvelle formule, cette nouvelle formule elle a des composantes qui sont tous d'origine européenne, mais par ailleurs, il pourrait ne pas être d'origine européenne. Je pense qu'il faut quand même faire bien sûr attention à ce qu'on dit, mais là en tout cas en l'occurrence ils sont tous d'origine européenne, et par ailleurs nous avons vérifié la composition de ce médicament à la fois dans ses spécifications, comme on dit, dans ses particularités, mais également le niveau d'impureté. Enfin, on a fait toutes les analyses dans les laboratoires de la NSM qui ont montré que ce médicament était tout à fait conforme. C'est un médicament classique fait sur le territoire européen par une entreprise qui est une entreprise tout à fait classique. Donc il faut faire la différence, parce que l'idée n'est pas tant la polémique que le débat, c'est comment arriver à aider les gens. Si on pense que c'est un problème de qualité de la nouvelle formule en tant que telle, intrinsèquement, je pense qu'on se trompe de combat et on ne va pas résoudre les problèmes. Si par contre on reconnaît le fait qu'il y a eu un problème au moment du passage de l'ancienne formule à la nouvelle formule, là on a des pistes effectivement d'amélioration très importantes en termes d'information et surtout, je dirais, d'information qui arrive aux patients. C'est surtout ça là où on doit vraiment changer, et en premier lieu, l'agence du médicament doit changer sa manière de faire de façon à ce qu'elle s'assure que l'information qu'elle a délivrée arrive bien aux patients, ce qui manifestement n'a pas été suffisamment le cas en l'occurrence.
Docteur Dominique Dupagne, est-ce que vous avez senti, vous, dans votre pratique de généraliste ces dernières années, cette défiance, cette crise de confiance ? Est-ce que ça se fait de patient à médecin, ou c'est quelque chose de global ?
C'est global. En fait, les gens ont été déçus par les autorités sanitaires. Je crois que le principal événement, ça a été la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, où vraiment, les gens, pour la première fois, ont pu se rendre compte qu'on leur avait dit n'importe quoi. C'est rare, vous savez, parfois, là, on a un débat, est-ce que le mannitol est toxique ou pas ? Qui aura la preuve, finalement, que c'est vrai ou pas ?
Pour revenir, justement, sur cette défiance liée à la grippe, beaucoup de gens avaient reçu leur bulletin de vaccination, pour être clair, après le pic est...
Bien sûr.
Voilà, donc c'était c'était trop tard. Même si ça avait marché, c'était trop tard.
On est d'accord. Donc, si vous voulez, c'était une évidence. Et donc là, première fois, les Français se rendent compte qu'on leur raconte parfois absolument n'importe quoi, avec un aplomb déconcertant. Ensuite, on a l'affaire Mediator, on a l'affaire des Paquines, et donc il y a une décrédibilisation totale des autorités sanitaires qui font que maintenant, les gens, bah, ils prennent leur information auprès des autorités, sur Internet, auprès de gens qu'ils ont confiance, de leurs médecins, et ils mettent en balance tout ça, mais il n'y a plus l'argument d'autorité, ça ne fonctionne plus. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, on a une tendance en France à être paternaliste, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est bon pour les gens, et on fabrique l'information qui va bien derrière. On disait tout à l'heure, l'information n'a pas été transmise aux patients par les médecins. Mais en fait, les patients, ils ont le droit de savoir, c'est eux qui prennent le médicament. Il ne s'agit pas de savoir si on leur transmet. Ils ont le droit de savoir ce qui change dans le produit qu'ils prennent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à savoir si on passe par quelqu'un d'autre. Directement, ils doivent le savoir.
Même si on parle de la crise, vous faisiez référence à la crise du Mediator. Là, c'est quand même très, non, mais là, c'est très une différent tromperie. Parce c'est qu'il y a eu tromperie. Parce mais qu'il y a eu des morts, des dizaines de morts. Et là, on est dans quelque chose.
Dépakine, effectivement. On ne dit pas l'information parce qu'on a peur d'inquiéter les femmes enceintes.
Des contre-indications très graves.
Et on arrive à une situation terrible parce qu'on n'a pas voulu faire peur aux femmes enceintes. Et donc là, on est très proche. On veut pas inquiéter les gens en leur disant que leur lévothyrox a changé. Résultat, on a des problèmes. Les gens se rendent compte qu'on leur a menti. Ils deviennent furieux à juste titre. Et après qu'il y a un emballement ou pas, c'est même pas tellement le sujet, si vous voulez. Mais quand vous avez l'impression d'avoir été trompé, vous ne pouvez pas vous calmer. Et donc vous voulez ne plus jamais prendre ce produit et en prendre un autre. Le problème n'est pas de savoir si vous avez tort ou raison. C'est je veux plus de ce truc. Je veux autre chose.
Mais d'autant plus qu'au début, on a entendu des justifications, y compris hein, de la part du laboratoire mère, qui disait « Attendez, les effets vont passer ». Et on a eu l'impression qu'on, de façon caricaturale, hein, mais je vais quand même le dire, on disait un petit peu, ce sont beaucoup un petit peu de bonnes femmes énervées.
Mais c'est ça le problème, voilà. C'est que c'est insupportable quand vous faites traiter de folle dingue parce que vous souffrez dans votre corps, vous devenez quasiment enragé. Excusez-moi, madame, si je dis ça, mais
je suis pas enragé.
Non, voilà, le mot est un peu fort, mais si vous voulez, moi je vois sur les réseaux sociaux des réactions d'une violence exceptionnelle, mais je les comprends en même temps. Et donc, il faut savoir aussi, il faut le dire, je sais pas si on l'a assez dit. 90% des gens qui prennent le nouveau lévothyrox n'ont aucun problème. Hein. Bon, mais 10% c'est 300 000, 1% c'est 30 000.
Professeur Philippe Touraine.
Oui, pour aller encore un peu plus loin, c'est quand même moi ce qui m'a frappé dans le débat ces dernières semaines, c'est que finalement on est sur un temps relativement court, puisque vous parliez au printemps de l'apparition des signes, mais je dirais que ça a explosé en quelque sorte pendant l'été. Et on a assisté à quoi ? C'est-à-dire, au fond, c'est le regroupement des malades, la pétition, l'information judiciaire très très rapidement, et d'emblée, on va vers la ministre de la Santé, et vous évoquiez tout à l'heure, madame, une démarche éventuellement vers Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est passé dans un système maintenant où, comme il n'y a plus de croyance dans une relation, dans une communication plus terre-à-terre, plus normale avec le corps de santé, on va directement se diriger vers l'Élysée en disant on va faire pression, et d'ailleurs c'est ce qu'on a observé un peu ces dernières semaines, on va essayer de gagner quelque chose. J'entends bien la démarche, je dis simplement qu'elle ne rajoutera pas à la crédibilité de la relation entre le médecin et le malade, qui décidément est effectivement est difficile en ce moment.
Et à ce titre, je voulais vous citer, tout à l'heure on a reçu un message d'une auditrice, Linda, qui nous appelait de Toulouse et qui nous disait « J'ai eu la nouvelle formule, face aux effets secondaires, je suis allée en Espagne acheter l'ancienne formule et comme ça ne marche pas, j'ai arrêté ». Donc on arrive même à des patients qui se mettent en danger parce qu'ils sont dans une espèce de crise de confiance absolue et ne vont pas voir leur médecin, professeur Philippe Touraine.
C'est effectivement la situation la plus caricaturale et la plus déprimante quelque part, j'ai envie de dire, puisque en aucun cas, si vous avez vraiment une hypothyroïdie, donc un manque prouvé d'hormone thyroïdienne, arrêter le traitement ne peut pas vous améliorer puisque vous allez véritablement être en hypothyroïdie avec ces symptômes. Donc ça, ce n'est pas cohérent. Mais effectivement, comme vous l'avez très bien dit, la première chose à faire, c'est d'aller voir son endocrinologue de référence ou son généraliste de référence, avec qui on a une relation de dialogue qui s'installe correctement. Probablement que le médecin va être amené à vérifier quand même l'équilibre hormonal, parce que mine de rien, c'est quand même un élément à faire dans le cadre du suivi de ses patients, et après discuter de ce qu'on fait. Mais la décision de l'automédication ou de la non-médication me paraît être malheureusement complètement inadéquate.
Nel Gaudry, vous avez aussi un rôle à jouer dans cette optique de dire aux personnes qui viennent vers vous, attention, n'arrêtez pas tout, allez voir votre médecin.
Ah oui, ça c'est la première chose que l'on dit. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est au niveau de l'information. Qu'il y ait une information, qu'il y ait une désinformation, que la boîte soit rouge ou verte, les malades s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des effets secondaires. Donc, qu'elles soient bien informées ou mal informées, on s'en fout. Voilà, je suis désolée de dire, on est colère parce que on voit qu'il y a des effets secondaires. Peu importe ce qu'on pouvait nous donner au niveau médicaments.
Dominique Martin, ce sentiment des patients d'avoir servi de cobaye.
Alors, le sentiment que les patients ont d'avoir eu des troubles et des troubles parfois importants, nous, on le reconnaît tout à fait, je le reconnais tout à fait, et d'ailleurs je ne l'ai jamais contesté dans aucune de mes interventions. Pour moi, c'est une réalité qui doit être prise en tant que telle, et j'ai déjà expliqué les causes et en quoi il fallait qu'on revoie nos procédures. Ce que je voudrais dire, c'est que pour sortir de cette situation apparemment inextricable, il a été décidé d'ouvrir les offres de lévothyroxine en France dès lundi prochain. Donc dans une semaine va arriver un nouveau produit, donc Sanofi, qui va venir sur le territoire français, et ce, de manière permanente. Il sera importé dans un premier temps, mais ensuite, il aura une autorisation de mise sur le marché. Il est actuellement utilisé en Allemagne de manière très, très importante. C'est un médicament très connu et donc très utilisé et parfaitement bien toléré, qui ne comprend pas, contient pas de mannitol, et il contient d'autres excipients, et il sera sur le marché français dès lundi. Et dès le mois de novembre, il y aura une nouvelle spécialité, donc qui sera également mise sur le marché, et également de manière permanente. Donc, on va ouvrir l'offre de façon à ce que des personnes qui sont effectivement tout à fait inconfortable ou intolérante, je mets le mot entre guillemets parce que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais acceptons-le comme tel, à la nouvelle formule, puisse avoir des alternatives avec d'autres spécialités qui contiennent de la lévothyroxine.
Ça veut dire que concrètement, ces personnes doivent aller voir leur spécialiste pour se faire prescrire la nouvelle molécule.
Voilà.
Ou elles auront une substitution, tout simplement. Non, il faut aller consulter.
Il faut aller voir le médecin. Et comme l'a dit le docteur Dupagne, une fois qu'on a un médicament avec lequel on est confortable, si j'ose dire, avec lequel on est bien, avec lequel on est stable, il faut conserver ce médicament. Il ne faut pas changer de médicament de manière régulière. À partir du moment où on en a un, qu'il soit princeps ou générique, puisque vous savez qu'en Europe beaucoup de génériques sont utilisés, peu importe, mais il faut garder son médicament le plus longtemps possible, de façon à ce que les choses soient stables.
Nel Gaudry, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir pour le Thyrox qui a été délivré lundi dernier.
C'est l'ancienne formule qui a été remise sur le marché sur décision de la ministère de la Santé.
De Thyrox, d'abord pour moi ça a été parcours de combattant, mais on passera là-dessus. Mais ce qui serait bien, c'est pourquoi la L-thyroxine Christiens de Belgique ne vient pas en France, puisque c'est l'ancienne formule du Lévothyrox. On peut en avoir 700 000 boîtes. Pourquoi encore vouloir faire des nouveaux médicaments qui seront des génériques, parce que tout ça c'est une question de fric, et les gens vont encore servir de cobayes, parce qu'ils ne sauront pas si la nouvelle boîte qu'ils vont prendre, ça va réussir, ils auront peut-être d'autres effets secondaires, et puis ils vont essayer encore une autre boîte qui changera, il y aura encore peut-être d'autres effets secondaires. Enfin, on arrive à un génocide médicamenteux.
Non, on ne peut pas utiliser ce genre de terme quand même, parce que pour l'instant il y a des enquêtes qui sont en cours. Avant de lancer des accusations de ce type, surtout avec ce genre de vocabulaire, faut quand même raison garder. En tout cas, la justice s'en charge, il y a des analyses, il y a des expertises qui seront décidées. Le médicament qui va être mis sur le marché la semaine prochaine, il ne s'agit pas d'un générique à proprement parler.
Non, il s'agit d'un princeps, du laboratoire Sanofi, qui est utilisé par plusieurs millions d'Allemands actuellement. Il est très largement utilisé en Allemagne. Il est donc dans un premier temps importé pour accélérer la procédure, et dans un deuxième temps, il va bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, de façon à ce qu'il soit de façon permanente en France. L'idée, c'est que à très très court terme, on ait en France plusieurs spécialités, de façon à ce que les patients puissent choisir, qu'on sorte de la situation de monopole qu'on a évoquée tout à l'heure, et que les patients puissent choisir, mais avec l'idée, que je reprends l'idée du docteur Dupin qui est importante, une fois qu'on est bien avec un médicament, il faut éviter de changer.
Mais Dominique Dupagne, il y avait eu un générique du Lévothyrox. Il a été retiré de la vente parce que là aussi, il y avait eu des problèmes d'adaptation.
Non, en fait, les associations de patients ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on leur substitue leur Lévothyrox par du générique. Et je comprends, puisque ça provoque des variations d'effets. Et donc, ils ont obtenu qu'on puisse facilement mettre non substituable, en tout cas que le pharmacien leur donne leur Lévothyrox et pas le générique. Et du fait de ventes insuffisantes, le laboratoire a arrêté la fabrication.
Il n'y a pas à risque une remise en cause, un défi par rapport justement à toute cette politique du générique ?
Alors ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Disons que cette affaire a permis de creuser un peu plus la façon dont sont étudiés les génériques. Pour la première fois, l'Agence du médicament a mis en ligne l'étude de bioéquivalence détaillée, c'est-à-dire comment on fait pour savoir qu'un médicament est identique ou pas à un autre. Et ça ouvre la porte à une réalité qui est un tout autre débat, qui est qu'il est finalement assez logique qu'un petit pourcentage de gens, quand on les passe à un générique, ressentent des effets différents de celui qu'ils avaient avec le princeps. Donc ça, c'est un autre débat, parce que finalement, le nouveau Lévothyrox, d'une certaine façon, encore une fois, pas sur le plan légal, mais sur le plan technique, c'est un générique de l'ancien.
Nel Gaudry, qu'est-ce qu'il va falloir, au-delà justement de la mise sur le marché de ces nouveaux produits, pour essayer de ramener le calme, de rassurer les patients et de retisser cette confiance avec les médecins ?
Bien, je pense que lorsque les patients auront trouvé un médicament qui vont vraiment leur convenir, qui pendant 3 mois, parce que moi, toutes ces personnes que j'entends hein, ici ou ailleurs, qui se disent, oh non, les effets secondaires, il faut patienter, etc., mais qui prennent le médicament pendant 8 semaines, puis après, ils pourront discuter, ils pourront expliquer. Mais c'est facile de dire, ben, patientez, ça va se passer, quand vous avez des gens qui peuvent même pas conduire parce qu'ils ont des troubles de la vision. Alors, tant que les patients n'auront pas un médicament qui vont vraiment les satisfaire, pour lequel, lorsqu'ils auront des prises de sang pour vérifier leur TSH sera convenable, la FMT n'arrêtera pas.
Vous allez continuer.
On ne nous aura pas à l'usure, ça c'est certain.
Et ça va se passer donc devant la justice française.
Absolument.
Et on en reparlera bien sûr hein, sur RFI, notamment dans Priorité Santé, le cours de ces instructions qui ont été ouvertes, notamment par le pôle de Marseille, pôle médical, crise du Lévothyrox, on l'a entendu, entre santé, justice et information. Merci beaucoup à nos invités en studio d'avoir fait le déplacement. Nel Gaudry, coprésidente et porte-parole de l'Association française des malades de la thyroïde. À vous Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Professeur Philippe Touraine, chef du service d'endocrinologie et de médecine de la reproduction à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et puis vous, Dominique Dupagne, médecin généraliste, auteur, animateur du blog atout.org. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
Priorité Santé sur RFI.
Et comme chaque lundi dans Priorité en Santé, nous retrouvons notre chronique Nutrition en ligne avec nous, Stéphane Besançon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète la semaine dernière, Stéphane. Vous vous étiez intéressé à la quantité de graisse adaptée pour notre alimentation. Et il faut bien sûr aussi s'intéresser à sa qualité, hein, au type de graisse consommée.
Alors effectivement, nous avons rappelé la semaine passée que la consommation globale de graisse dans notre alimentation était indispensable, même si la quantité doit être contrôlée. En effet, les graisses doivent représenter, suivant notre activité physique, entre 20 et 35% de notre apport énergétique journalier. Et cette semaine, nous allons voir que le respect de cet apport quantitatif n'est pas suffisant et qu'il faut aussi bien porter son attention au de graisse que l'on va consommer, notamment en limitant l'apport en acides gras saturés, en acides gras trans, tout en assurant un apport essentiel en acides gras essentiels.
Alors, quelles sont les différentes familles de graisses importantes pour notre alimentation ?
Alors, les graisses, c'est ce qu'on appelle scientifiquement les lipides, sont répartis en deux principales familles, les lipides simples et les lipides complexes. Alors, on va s'attarder aujourd'hui surtout sur les lipides simples, les plus connus, à savoir les acides gras, qui peuvent être saturés ou insaturés, les glycérolipides, qu'on appelle les triglycérides, et enfin les stéroïdes, comme le cholestérol. Alors, les recommandations internationales, aujourd'hui, recommandent de consommer peu d'acides gras saturés, qui sont les acides gras qui sont contenus majoritairement dans les produits animaux, comme par exemple les produits laitiers, la viande ou les œufs, en limitant à moins de 10% la consommation totale de ces acides gras. Un minimum aussi d'acides gras trans, qui sont des acides gras produits par l'industrie lorsqu'on y a un processus d'hydrogénation et qu'on retrouve par exemple dans les croissants, les pommes de terre surgelées, et les poissons panés et beaucoup d'aliments industrialisés. Un apport maximum de 300 mg par jour de cholestérol que l'on retrouve par exemple dans les œufs. Et enfin, un apport adéquat en acides gras insaturés, les fameux acides gras insaturés dont on voit la publicité partout, contenant des acides gras essentiels, 11 à 17 mg d'oméga 6 et 1,6 à 1,1 oméga 3.
Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces acides gras essentiels et pourquoi ils sont aussi importants ?
Alors, ce sont des acides gras comme les polyinsaturés à chaîne longue de la famille soie, des oméga 3, l'acide linolénique et oméga 6, l'acide linoléique, qu'aujourd'hui on voit un peu partout sur les produits dans les supermarchés. Alors, ils sont appelés essentiels parce que notre organisme est incapable de les fabriquer. Donc, il est important de les apporter par l'alimentation. Et aussi parce qu'ils jouent un rôle central dans notre organisme. Ils sont un constituant essentiel des membranes de nos cellules. Ils permettent d'abaisser le taux de cholestérol et des triglycérides sanguins. Ils participent au développement de notre système nerveux, de notre système reproducteur et aussi de notre vision, ce qu'on oublie souvent. Ils sont également des précurseurs de nombreuses molécules qui vont réguler l'activité de nos cellules. Ils ont donc un rôle central, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'ils sont aussi essentiels.
Alors, quels sont les aliments contenant ces acides gras essentiels ?
Alors, on retrouve d'abord les acides gras oméga 3 dans les poissons gras, comme le saumon, le hareng, la sardine, et de nombreux produits de la mer, comme le homard, les crevettes ou encore les moules. On les retrouve aussi dans de nombreux produits végétaux, comme l'olive, l'avocat, l'amande ou encore l'arachide. C'est important pour nos auditeurs qui nous écoutent en Afrique. Et les huiles d'arachide ou d'olive contiennent donc beaucoup d'acides gras oméga 3. Et enfin, pour terminer, les acides gras oméga 6, on les retrouve essentiellement dans les produits végétaux, comme le germe de blé, le canola, la noix ou le soja. Et les huiles de noix ou de canola contiennent donc des acides gras oméga 6.
Donc on l'a compris, hein, Stéphane, il y a graisse et graisse. Le tout est de bien choisir avant de passer derrière les fourneaux. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci de rester fidèle à notre émission Priorité Santé. Demain, nous parlerons de la schizophrénie, diagnostic, symptômes, lutte contre la stigmatisation également. Si vous voulez poser vos questions, témoigner, bien sûr, notre numéro est là pour vous, le numéro de téléphone de l'émission 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.